Et c'est reparti pour une nouvelle édition du Arras Film Festival, dont c'est la 17e édition cette année. Du 4 au 13 novembre, l'association Plan Séquence qui organise cet événement va encore nous faire voyager, réfléchir, s'émouvoir, rire et se questionner sur un autre cinéma que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les salles obscures. Pour en savoir plus sur la programmation qui nous attend lors de cette 17e édition, entretien avec Éric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence. Une interview réalisée avec la complicité de Bernard Lyon qui anime l'émission Variation sur le 99.9. Éric, avant de rentrer dans le vif du sujet de la programmation, un petit mot peut-être sur le festival en général. On est en état d'urgence, il va peut-être y avoir des consignes de sécurité particulières. Est-ce que ça change beaucoup cette année pour vous ?
Nous, je vais dire qu'on est entraînés. Pas la différence des autres, c'est qu'on a vécu de plein fouet les événements de l'an dernier. Et donc, on a dû. D'abord, on est l'un des rares festivals à avoir continué. Il y a très peu qui ont fait l'an dernier pendant. Puisque je rappelle qu'on tournait le 14 et le 15 novembre. Et donc, on a mis en place dans l'urgence avec la ville d'Arras un certain nombre de contrôles. Bon, cette année, ils vont être intensifiés, c'est-à-dire qu'on aura des contrôles non seulement dans les lieux de projection, mais également au village du festival. Donc, tout ça, c'est un coût. C'est pas facile pour les structures aujourd'hui de supporter ces coûts. Qui sont pas prévus au départ, mais c'est le lot commun de tous les événements. On fait attention aussi un peu à la grille pour pas trop serrer les programmes, parce que ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, il est recommandé de pas venir avec trop d'affaires, trop de sacs, et voilà, parce que plus qu'on aura ces affaires à contrôler, plus que ça prendra de temps. Mais tout va bien se passer.
Alors, on vient de recevoir le nouveau programme de ce festival, et on peut découvrir que parmi les invités, il y a le cinéaste français Stéphane Brisé, un réalisateur, scénariste, acteur. Il est même passé en travaillant un petit peu sur cette émission dans la région pour faire un DUT électronique avant de retourner. Donc il l'a fait à Valenciennes, avant de retourner sur sa ville natale, Rennes, pour faire de l'audiovisuel. Et puis ensuite, il est parti sur Paris pour faire du théâtre et du cinéma. Et donc, on le connaît puisqu'il a connu le succès, surtout avec et les récompenses avec le film La loi du marché. Et cette année, donc, il vient présenter un nouveau film dans le festival.
Oui et non, c'est-à-dire on est là, une vie, c'est une autre époque, c'est son nouveau film et ça c'est une adaptation de Maupassant, donc on est au 19e siècle, on est plus dans l'esprit d'un film romantique, mais en même temps on retrouve tout ce qui fait la qualité du style de Brisé, c'est-à-dire cette capacité à rentrer dans le réel, à faire que son film de costume, c'est pas un film poussiéreux, mais c'est un vrai film moderne et qui est très innovant sur le plan de la forme, mais également très classique quelque part dans son récit, avec des beaux acteurs. On retrouve par exemple Yolande Moreau, qu'on aime beaucoup, on retrouve Jean-Pierre Darroussin, et puis une belle brochette d'acteurs français qui sont vraiment magnifiques dans le film, parce que l'une des capacités quand même de Stéphane Brisé, c'est d'être en mesure de diriger ses comédiens. C'est ça qui fait la grande force aussi de son cinéma. Je pense à Alain Donc, qui est l'un de ses acteurs fétiches, enfin, que ce soit dans La loi du marché ou dans Mademoiselle Chambon ou dans Quelques heures de printemps, à chaque fois il est magnifique. Et puis dans Une vie, il y a cette révélation de cette comédienne magnifique, s'appelle Judith Chemla, qui est à la fois chanteuse lyrique et qui là à l'écran nous bouleverse totalement. La découverte de ce film, ça a été un choc pour nous. On n'a pas tous les jours des chocs cinématographiques comme ça, et du coup on a envie de revisiter rapidement sa filmographie, de la faire revisiter au public, et donc on a réuni tous ces longs métrages pour pouvoir les présenter lors du festival, parce que je crois que c'est un cinéaste qui mérite d'être découvert, parce que finalement Une vie, ça éclaire tous ses autres films.
Il y a une leçon de cinéma donc, qui est prévue à l'Université d'Artois. Ce sera le jeudi 10 novembre à 14h30. Il sera animé
par Michel Simon.
Donc c'est toujours 9 rue du Temple à l'amphithéâtre Churchill. Et puis ça reste gratuit.
Et après le film, il est projeté à 18h30. Parce que c'est quand même un film qui vaut le déplacement.
Le film d'ouverture et le film de clôture. Donc en ouverture, Demain tout commence, d'Hugo Gélin. En clôture, Un jour mon prince, de Flavie Acoste. Peut-être un petit mot sur le choix de ces films.
Pour l'ouverture, on a choisi un film qui est un peu un film total, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, du drame, de l'action. Voilà, c'est un film, je pense, qui est fédérateur, dans le sens séduisant. Après, c'est pour nous aussi un lien fort avec la production de la famille Bélier d'il y a 2 ans. Ça nous avait porté chance, alors porté chance, c'est pas à qui d'ailleurs. Voilà, mais bon, on a gardé de bons liens et c'est leur nouvelle production et ça nous intéressait. Je pense que ça sera une belle ouverture. Quant au film de clôture, Un jour mon prince, là c'est un choix un peu plus, je dirais, audacieux, dans le sens où on a choisi un petit film français d'une jeune réalisatrice-actrice qui s'appelle Flavia Coste. Pour terminer le festival, je trouve que c'est un film léger, sans prétention, qui est très drôle. C'est l'histoire de deux fées qui, pour sauver leur royaume, sont envoyées à Paris pour trouver le prince charmant, parce que la belle voix dormant, ça fait 100 ans qu'elle dort et bientôt tout ça va disparaître. Et donc les deux fées sont envoyées dans les rues de Paris à la recherche du prince charmant. Elles se rendent compte très vite que c'est très compliqué, elles qui pensaient qu'elles allaient dans la ville de l'amour. Et c'est d'autant plus séduisant que ces deux Québécoises, elles ont un accent très sympa et que ça donne un petit côté comme ça de vrai plaisir.
On rappelle, hein, donc le film d'ouverture vendredi 4 novembre à 19h30, ce sera au Casino. Et puis le film de clôture également, mais cette fois-ci ce sera le dimanche 13 novembre à 19h.
Et dans les avant-premières, il y a aussi un film d'animation ?
Oui, il y a un film d'animation dans les avant-premières que j'aimerais bien qu'on en touche un mot, c'est Louise en hiver de Jean-François Laguioni, qui est un habitué maintenant un petit peu du festival.
Oui, on avait présenté Le Tableau.
Exactement. Ouais.
Qui était un film magnifique. Ouais. Là, je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Dans le genre animation, je crois qu'on atteint une espèce de perfection. C'est pas un film pour les enfants. C'est une vraie animation pour adultes et ça pose des questionnements qui sont propres à la vieillesse, de la solitude. Voilà, mais c'est très beau, c'est très poétique. C'est une espèce de film testament en fait par son réalisateur et il y a une vraie beauté du graphisme. C'est une espèce de plage, c'est une mamie qui est abandonnée dans une station balnéaire fermée qui ressemble un petit peu à Berre-sur-Mer parce que c'est un film produit en région, faut pas l'oublier. C'est vraiment un joli film, très très beau.
Après, nous avons le retour du cinéaste danois Thomas Vinterberg, qui faisait partie avec Lars von Trier et d'autres réalisateurs du mouvement intitulé Dôme 95. Et j'avais découvert ce réalisateur avec l'excellent film Festen, c'était en 98. Et là, il revient avec un dernier film.
Oui, La Communauté. Ce sera la première française du film. Il a été présenté à Berlin au mois de février. C'est un film qui se replonge dans les années 70. C'est un film qui parle de l'utopie, de vivre ensemble, de partager, enfin de tout cet esprit. Et c'est un beau film d'acteur, un beau film de réalisateur. Et ceux qui ont aimé Festen ou La Chasse, ils vont beaucoup apprécier La Communauté.
Et tous les ans, le festival organise une compétition européenne avec 9 longs métrages à découvrir.
Ouais, et du coup, il y a des habitués aussi. Là, on retrouve évidemment Christina Grozeva et Petar Valkanov, hein, qui m'avaient vraiment séduit avec ce superbe film The Lesson en 2014. Ils reviennent avec le film Glory. Ensuite, Christian Chevauchaud, également un habitué, Cracking the Shell en 2011. Il y avait aussi West de l'autre côté du mur en 2013 et qui était également en compétition. Là, il revient avec Paula. Petr Vaclav aussi, notre plus français des Tchèques, avec Sestaven, hein, je m'en sortirai, donc, qui était en Vision de l'Est en 2014. Et puis il y a aussi un film qui m'intrigue un peu, c'est le film hongrois, Roue Libre.
Toujours quand on fait une compétition, on se dit qu'il ne faut pas que les 9 films se ressemblent, et donc on cherche toujours un film qui est un petit peu un piment supplémentaire. Le piment de Roue Libre, c'est celle des espèces de Tarantino avec un pitch improbable, c'est-à-dire c'est des handicapés en fauteuil roulant qui sont en même temps des tueurs à gages. Voilà. Mais c'est beaucoup plus imaginatif que ça, et sans dévoiler le reste de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes sur les liens entre la fiction et la réalité. Enfin, c'est très punchy, et c'est très très bien joué par tous ces comédiens. Alors, vrai handicapé, faux handicapé d'ailleurs, il y a les deux dans le film.
Également peut-être un petit mot sur le dernier film de Petr Vaclav, We Are Never Alone.
Petr Václav, il étudie un microcosme dans une petite ville tchèque, à la campagne. Voilà, ils ont chacun leur vie. Puis ils créent comme ça, ils tissent entre plusieurs personnages des liens. Et chacun va essayer de chercher l'amour ou ne voit pas l'amour où il est. Enfin, c'est très. Mais c'est une très belle, un très beau portrait de société, assez fort d'ailleurs, par le réalisateur tchèque qui, d'ailleurs, avec Sestaven, s'est imposé comme le grand réalisateur tchèque, puisqu'il avait eu tous les prix. L'équivalent de leur César en fait. Donc on nous a dit, quand on a dit au responsable du cinéma tchèque qu'on prenait le film de Petr Václav en compétition, mais il dit vous avez le meilleur, donc vous êtes tranquille.
D'ailleurs il y a beaucoup de candidats à l'Oscar également dans cette compétition, hein.
Oui, c'est toujours la surprise de dire on sélectionne les films, puis après on découvre que petit à petit ils se font prendre par les Oscars, ce qui est toujours un peu complexe parce que c'est le lancement de la campagne, est en novembre, et donc il y en a quelques-uns qui filent sur les États-Unis pour aller défendre le bout de gras, mais c'est vrai que en même temps c'est plutôt rassurant quelque part, parce que ça veut dire qu'on n'a pas choisi des films qui n'étaient pas inintéressants, puisqu'ils sont, à partir du moment où on est candidat pour l'Oscar, on représentait son pays à l'Oscar, bah on est considéré comme certainement le meilleur film de l'année ou l'un des meilleurs films de l'année.
C'est là où je voulais en venir d'ailleurs, comme soit, chaque année on a une super compétition européenne. Donc
oui, et puis on a plein de surprises cette année, hein. Ouais. Par exemple on a choisi un film comme Houston, We Have a Problem, qui est une vraie pépite, hein, je peux vous assurer.
Alors est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie?
C'est un mockumentaire, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc en fait il utilise la réalité pour raconter une histoire qui est complètement fabriquée, mais en même temps je trouve que ça dit beaucoup de choses sur cette période là c'est-à-dire qu'en nous racontant des bistouilles, et on n'est pas loin de la vérité, en fait.
Parce que c'est vrai que là, ça abordait une rencontre entre Tito et le président Nixon. Bon, je m'intéresse un peu à la conquête spatiale, et du coup, je me dis, ah tiens, ça pourrait être vrai, hein, pourquoi pas.
Tout est très... Il y a eu des rencontres, hein, parce qu'il y a des vraies images, hein, mais après, on ne sait pas où s'arrête la réalité et la fiction. Mais ça revisite à peu près 30 ans de l'histoire des relations entre les États-Unis et le bloc de l'Est, hein, à travers ça.
En sachant que
mais c'est très drôle. En plus, ce qui est bien dans le film, c'est qu'ils ont réussi un film qui est en même temps très drôle. C'est-à-dire, il faut pas le prendre au premier degré.
D'accord. Alors, puisqu'on parle d'humour, une thématique assez difficile à aborder, qui est toujours d'actualité, surtout en Europe et en France, c'est les migrants. Il y a un film norvégien qui aborde avec humour justement cette thématique, c'est Welcome to Norway.
Oui, qui sera retitré Bienvenue lors de sa sortie en France. Welcome to Norway, je trouve que c'était bien parce qu'il a réussi à aborder cette problématique. Imaginez que pour faire un peu d'argent, un blanc, un norvégien légèrement raciste accueille 50 gugus dans son établissement et en même temps, voilà, il se crée des liens, il apprend à les connaître, et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur cette mixité, et c'est bien traité. On a plusieurs films d'ailleurs qui traitent du problème des migrants. On a un film qui était tourné en grande partie dans la région qui s'appelle Comment j'ai retrouvé mon père, qui est fait par un jeune comédien de la région qui s'appelle Maxime Mott. En filigrane comme ça, on a plusieurs films qui abordent ce thème, parce que c'est vraiment un thème important aujourd'hui.
Alors cette compétition européenne sera présidée par le réalisateur Jean-Pierre Améris, qui n'est pas exceptionnellement invité en tant que réalisateur, mais invité pour présider cette compétition. Ça va, il est à un moment où il a un peu plus de temps.
Il tourne le 28 novembre, nous a annoncé hier, donc on a eu chaud. Mais on le savait, hein, on savait qu'il allait... Donc il est dans un creux juste avant la tempête. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que Jean-Pierre Améris va tourner le 28 novembre. Et c'est un vieux... Enfin, on avait envie... Il y a une telle complicité entre nous et lui. On l'a fait venir pour des films et on avait envie de le faire jouer ce rôle-là de président de jury qu'il n'a jamais fait. Comme Philippe Pioré l'a accepté, je ne sais pas s'il recommencera après, mais ça nous a fait beaucoup plaisir parce que c'est un grand amateur de cinéma et on aime bien avoir ce regard cinéphile sur nos films.
Dans la sélection Vision de l'Est, il y a une sélection de 6 courts-métrages avec en plus cette année quelques classiques.
Des longs.
Des longs métrages. Et avec en plus cette année quelques classiques et un hommage.
Ouais, une nouveauté donc dans le festival, hein, puisque ben là il y a un hommage à Vilmos Zsigmond qui est un chef opérateur. Donc peut-être rappeler un peu ce que c'est qu'un chef opérateur pour les auditeurs.
Bah, on appelle chef opérateur ou directeur de la photo. En fait, c'est celui qui règle les lumières. Donc il y a une complicité très forte avec le réalisateur. Et quelque part, la lumière d'un film, c'est aussi fait partie de sa réalisation. Et d'ailleurs, il nous l'explique très bien. Il nous montre comment il travaille la lumière. Enfin, c'est une vraie leçon de cinéma, son film. Et puis après, quand on dit Vilmos Zsigmond, personne ne connaît. Mais quand on dit Voyage au bout de l'enfer, Rencontre du troisième type,
Délivrance,
enfin, c'est que chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Enfin, c'est lui qui a éclairé le nouvel Hollywood, en fait. Tous les réalisateurs de nouvel Hollywood, quasiment, sont passés par sa lumière. Et donc, quelque part, c'est quelqu'un qui a donné l'esthétique aussi d'un cinéma, d'une forme de cinéma de cette période. Et donc le film est un bel hommage. Alors c'est malheureux, c'est que j'aurais rêvé de faire une leçon de cinéma, mais il nous a quittés au mois de février ou mars cette année. Et donc malheureusement, mais je crois que ça aurait été précieux de pouvoir l'entendre. Je crois que c'est un grand monsieur.
Peut-être un mot sur les trois films qui sont dans cette sélection de classiques.
Oui, parce que c'est vrai que d'un seul coup, on s'est dit, mais on retrouve plein de films sur les écrans en ce moment, restaurés, qui viennent d'Europe de l'Est, et nous on fait tout ce travail pour découvrir ces cinématographies, mais c'est bien aussi d'aller voir ce qui se faisait avant, et donc là on a essayé de réunir trois films un peu différents, d'ailleurs il y en a un des années 50, un des années
60
et un des années 70. Donc le premier c'est La Vallée de la Paix, c'est l'histoire de deux enfants pendant la Seconde Guerre mondiale qui veulent échapper à la guerre, qui veulent retrouver une vallée légendaire où il n'y aurait pas la guerre, et donc ils rencontrent un aviateur qui est un noir, et donc ils n'ont jamais vu de noir, c'est un peu complexe, un aviateur américain, et ils vont faire un bout de chemin ensemble, c'est très beau, et l'acteur avait eu le prix d'interprétation à Cannes, donc c'est pas rien. Éclairage intime, c'est une pépite du cinéma tchèque des années 60, si vous connaissez les films de Miloš Forman, c'est l'époque du Printemps de Prague, et son réalisateur Ivan Passer était le scénariste de Miloš Forman, c'est lui qui a fait tous les scénarios, Faux les pompiers, Les amours d'une blonde, et il a fait ce film, il en a fait après d'autres aux États-Unis puisqu'il a suivi Miloš Forman aux États-Unis et il a eu une carrière perso, et il avait fait ce film qui s'appelle Éclairage intime, voilà, qui est un espèce de moment de bonheur absolu pendant 1h20 à la campagne tchèque, avec cet humour si particulier, c'est très beau. Et le troisième, c'est un film hongrois qui s'appelle Amour. Alors c'est moins drôle, mais en même temps c'est plus l'esthétique du cinéma hongrois, plus formaliste, mais en même temps très touchant, puisque c'est une femme qui cache à la mère de son mari que celui-ci a été emmené par les forces staliniennes puisqu'il est mis en accusation d'avoir collaboré, et donc elle lui cache et elle lui écrit des lettres, elle fait semblant qu'il est parti aux États-Unis pour faire une carrière de cinéaste, et elle lui écrit des lettres et elle vient les lire tous les jours, et c'est cette relation entre les deux qui est très très belle.
D'ailleurs, qui avait eu le prix du jury à Cannes aussi, en 71.
Oui, il était primé aussi au Festival de Cannes, oui.
On reste en Europe avec les découvertes.
Des découvertes européennes avec encore une fois plein de pépites à découvrir, notamment peut-être ce film La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, un film d'animation qui me paraît aussi une belle perle.
Ouais, je crois qu'on peut plus faire l'impasse sur le cinéma d'animation aujourd'hui, qu'il soit fait pour les petits ou pour les plus grands. Et là, en l'occurrence, on est encore une fois sur un film d'animation qui se destine plutôt à un public adulte, hein, même si je pense que quand on est au lycée, on peut apprécier le film parce que c'est une histoire moyenâgeuse, c'est une espèce de conte moyenâgeux avec un graphisme très original. Et Sébastien Lodenbach a une particularité, c'est qu'il est originaire d'Arras, il est né ici. Très vite, il a souhaité qu'on puisse le projeter. C'est un des premiers films qu'on nous a soumis cette année. Alors que c'est nous qui allons plutôt chercher des films, là, on nous l'a soumis. Mais je comprends pourquoi. Enfin, je veux dire, je comprends qu'il ait eu envie de le montrer au festival dans sa ville. Enfin, ça me paraît. Voilà. Puis c'est un film très poétique, très beau. Si il faut se laisser embarquer par cette histoire.
Et il y a aussi un film danois qui m'a interpellé sur un épisode de la guerre mondiale, pas très connu. Hein. Ce film s'appelle Les Oubliés, qui est un film sur des prisonniers, des jeunes prisonniers allemands qui sont chargés, avant de pouvoir rentrer chez eux, de déminer sur une plage danoise à peu près, je ne sais plus, 40 000 mines.
Ah oui, c'est un truc énorme. C'est un film très fort, en fait. Très, très fort dans le sens où c'est des gamins à qui on a mis un uniforme à la fin de la guerre parce qu'il n'y a plus personne, et qui se retrouvent là à payer finalement les erreurs de leurs adultes, et ils sont traités comme des chiens. Et, après, entre leur geôlier et eux, ils se créer petit à petit une relation forte et humaine qui est très touchante. Alors c'est un film très fort. Moi, je trouve vraiment une belle réussite du cinéma danois qui atteint maintenant des niveaux qui sont assez élevés quand même. Mmh.
Le cinéma du monde.
Ouais, on découvre encore pas mal de belles choses cette année. Et un film que moi j'ai hâte d'aller voir, c'est le dernier film de Asghar Farhadi, l'Iranien, qui s'appelle Le Client. Je crois qu'il avait réalisé aussi La Séparation, qui était
un chef-d'œuvre.
Peut-être un mot sur ce film.
Le Client, c'est toutes les qualités du cinéma de Farhadi, c'est-à-dire c'est presque l'anti-Kiarostami. C'est malheureux de dire ça l'année où Kiarostami est mort, mais Kiarostami a donné un style au cinéma iranien. Farhadi lui a ouvert une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'il a apporté le scénario. Et là, on est à nouveau dans un film très écrit, avec une histoire très complexe, mais bien, très, très, avec des personnages ciselés. On est vraiment dans la continuité du cinéma de Farhadi qui contamine aujourd'hui tout le cinéma iranien.
C'est pour ça qu'on a une
évolution, et pas en mal d'ailleurs. Hein. C'est bien aussi que le cinéma iranien évolue, parce que des sous-Kiarostami, on a eu plein. Certains étaient de bon niveau, mais d'autres, finalement, à reproduire toujours la même chose. Tout le monde n'avait pas le niveau de Kiarostami. Aujourd'hui, on sent un cinéma iranien qui devient de plus en plus scénarisé. Et d'ailleurs, le film Le Client a eu 2 prix à Cannes. Hein, celui du scénario, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus original, celui de meilleur acteur, parce qu'il avait déjà eu le prix du scénario, je crois, pour un... Enfin bref, ça paraissait tellement évident. Et le film est sorti en Iran et a eu un immense succès. Il a battu les blockbusters de là-bas, quoi.
Et puis, on va voir aussi plein de belles images avec le film australien Tana.
Oui. Alors, Tana, c'est un film un peu particulier. Ça se passe au Vanuatu. Ça raconte une histoire qui est arrivée il y a une paire d'années, et les réalisateurs ont choisi de faire jouer aux habitants d'une vraie tribu, ou de plusieurs tribus d'ailleurs, l'histoire de leurs ancêtres. Et c'est une histoire d'amour, et c'est très bien joué, il y a une espèce de fraîcheur comme ça, et même si c'est une histoire assez tragique, finalement, on pourrait d'ailleurs faire des liens avec le film Loving.
Ouais.
Parce que c'est comment une histoire d'amour, elle peut déclencher sur quelque chose qui va changer la coutume. En l'occurrence, dans Loving, le film de Jeff Nichols, ça va changer la constitution américaine. Là, dans Tana, ça va changer la coutume et la loi ancestrale qui impose les mariages, en fait. Et donc, voilà. Et puis après, il y a la beauté des paysages. Ça se passe au pied d'un volcan. Enfin, ce qu'il y avait. Je me souviens du film l'an dernier qu'on avait passé, film guatémaltèque, Iskanul, qui se passait comme ça. Là, on est à nouveau au pied d'un volcan, avec plein de personnages. Et finalement, ce côté un peu ethnographique fait que c'est pas du tout désagréable. Ça en donne une certaine authenticité au film.
Nous allons parler du Festival des Enfants, une bonne occasion donc pour découvrir du cinéma d'animation international, et c'est aussi un rendez-vous pour tous les publics, même pour les plus petits.
Ouais, exactement, parce que cette année aussi il y a une petite nouveauté, ma première séance, donc c'est en partenariat avec le festival Ciné Jeune de l'Aisne.
Oui, parce que nous on ne sait pas faire ça, donc on est allé chercher ceux qui savaient le faire. Comme on a des relations très très bonnes avec ce festival, qui fait un travail admirable pour le jeune public. Hein. Il faut savoir qu'ils partent du festival. Au départ, c'était le festival de Laon, et c'est le premier festival en France qui a été créé à destination du jeune public. Et eux, ils sont dans cette continuité, ils sont beaucoup plus itinérants aujourd'hui, mais ils font ce travail-là, quoi. Et donc du coup, on les a sollicités pour ça parce qu'on avait envie. On s'est rendu compte que tous les ans, il y avait des enfants très jeunes, hein, 2 ans, 3 ans, qui faisaient leur premier pas aussi cinéma lors du festival, et on s'est dit mais à partir de quel âge on peut aller au cinéma, donc 18 mois, ça paraît envisageable, et là c'est une séance spéciale pour ces enfants, 18 mois, un petit peu plus, qui va mélanger à la fois des films, pas trop longs, hein, parce que l'attention, voilà, il n'est pas question de mettre des films de 3 heures, et puis il y a une animatrice qui raconte des choses, qui leur lit des contes, enfin il y a une espèce d'interaction comme ça entre l'image et ce qui se passe dans la scène pour leur faire découvrir le plaisir du cinéma.
Puis moi je suis très content encore une fois parce que cette année mes Belges préférés reviennent, Vincent Patard, Stéphane Hobby avec Panique tout court, donc là on va encore bien s'amuser il me semble.
Ah oui, la rentrée des classes, si vous aimez Panique au village, la rentrée des classes atteint un niveau encore au-dessus, enfin, je sais pas comment on peut arriver au niveau au-dessus, mais je dirais qu'on est encore sur un film qui est encore plus drôle, encore plus fin, encore mieux tourné, et franchement là c'est assez irrésistible.
Et pour terminer la présentation du festival, on rappelle que vous retrouverez 2 rétrospectives avec une sélection de films sur la guerre d'Espagne, une sélection de films sur l'évasion. Il y a aussi des ateliers, des ciné-concerts, les afters musicaux, la caravane du Mini Paradisio qui est toujours située près du village du festival.
Non, cette année,
elle a bougé.
Il y a beaucoup de changements, ça sera d'accord. Sur la place des héros et la ville prépare un certain nombre d'animations en lien avec le festival.
D'accord.
Donc il va se passer énormément de choses sur les deux week-ends qui sont organisés. Il y aura des tas d'animations sur la place des héros, on pourra participer à des films, il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place.
D'accord. Donc la caravane a bougé, le village toujours sur la Grand Place,
face
du Cinéma Ovida. Et puis.
Ouais, j'ai une dernière petite question. Alors, l'affiche, hein, et puis ce qui. Évidemment, le visuel des plaquettes, etc. On n'en parle pas souvent. Tu avais peut-être émis l'idée de faire un petit concours pour la clôture du festival, éventuellement, de savoir qui est elle.
Ah, pas toujours, hein, oui.
Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as déjà une petite idée de ce que tu vas nous proposer pour autour de cette jeune demoiselle? Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial?
J'aimerais bien dévoiler la vraie. Enfin, faire quelque chose pour la soirée de clôture, oui.
Ouais.
Autour d'elle. Mais d'ailleurs, peut-être, on revisitera peut-être les dernières. Je sais pas où est-ce que. Où est-ce que c'est à l'ouverture, je dois faire ça, et puis on va annoncer la clôture.
Voilà.
Il y a toujours cette idée, mais cette année c'est dur. Très dur. Bah, c'est encore plus difficile que d'habitude.
Vous êtes avertis, donc auditrices et auditeurs, faut chercher.
Et vous aurez la réponse lors de la cérémonie de clôture.
Donc faut venir.
Alors pour les infos pratiques, il y a toujours le site pour.
On a un nouveau site.
En plus. Et puis quels sont les conseils?
Mais c'est toujours la même adresse, hein, Arasfilm Festival, c'est facile.
D'accord. On peut maintenant réserver par Internet aussi?
Oui, ça fait deux ans.
Ça fait deux ans, ouais.
Il y a à peu près 30% des spectateurs qui achètent leurs billets par Internet.
Voilà, ouais. Ce qui évite pour certains d'entre vous qui écoutez les queues au cinéma.
Ouais.
Eh bien, merci Eric Millot et rendez-vous donc du 4 au 13 novembre pour ce 17e Arras Film Festival.
C'était un entretien avec Eric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence, qui organise la 17e édition du Arras Film Festival. Clap moteur dès le 4 novembre et clap de fin le 13 novembre. Plus d'infos sur le www.arasfilmfestival.com et vous trouverez également toute la programmation sur les petites plaquettes qui se baladent un petit peu partout dans Arras et les environs.